Oh mais dites voir, c'est la dernière de l'année. Bienvenue dans l'Instant M.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
On se fait un petit cadeau pour cette fin 2016. Des paillettes à haute dose, des semelles compensées, Travolta, Abba et les Village People sur un plateau. Le disco est à la fête sur France 3 ce soir. Un documentaire 100% images d'archives. L'un des auteurs de ce film est mon invité ce matin. Bonjour Philippe Thuillier.
Bonjour Dorothée.
Et bienvenue, producteur télé, fin connaisseur du phénomène disco. Vous publiez également un livre sur Mariti et Gilbert Carpentier. On plonge dans les années 70 avec vous dans un instant. Au programme également la chronique série de Romain Nigita avec une bagnole qui était autonome bien avant la Google Car. Mais d'abord, hommage à un grand bonhomme de la télévision.
L'Instant M, l'actualité des médias sur France Inter.
Aujourd'hui, je vais vous donner des nouvelles d'un continent, entier, ce qui est tout à fait inhabituel. Un continent inhabité, d'ailleurs inhabitable. Le dernier à avoir été découvert sur notre planète. Ce sont un petit peu les fesses du monde, comme on s'en amuse parfois. Et il s'agit bien sûr de l'Antarctique. Donc allons voir quelques cartes.
Du gai savoir, une émission exigeante et accessible. Le dessous des cartes était un ovni télévisuel depuis 26 ans. Son créateur et animateur Jean-Christophe Victor, fils de l'explorateur polaire Paul-Émile Victor, est mort mercredi à l'âge de 69 ans. Un amoureux des cartes, outils poétiques et géopolitiques. En début de semaine encore, on l'entendait sur France Culture et on le lisait dans Libération. Ne vous laissez pas berner, disait-il, on ne mesure pas le pouvoir des cartes. En cause, Google Maps, qui est accusé de redessiner les frontières à sa guise pour conquérir des marchés. Jean-Christophe Victor venait de publier aux éditions Taillandier un livre sur l'Asie, 143 pages, 120 cartes. Pour 1,30€, aujourd'hui, t'as plus rien. Mais si t'as aujourd'hui en France, en 2017, le journal Le Parisien augmente son prix de vente au numéro, la semaine prochaine donc, ce sera 1,30€ au lieu d'1,20€. Le quotidien, qui a bénéficié d'une nouvelle formule après avoir intégré le groupe LVMH, compense donc la baisse des ventes, même si cette baisse est un peu moins pire depuis un an. Ça reste le quotidien national le moins cher de France. Le Monde coûte 2,40€, Libération 2€ et Le Figaro 2,20€. Et le quotidien le plus lu en France reste Ouest France, 1,15€ en kiosque.
L'Instant M, Dorothée Barba, sur France Inter.
C'est Monica de Friends qui prépare la dinde au marron. Dexter se charge de la découper. Les triplés de la série This Is Us viennent nous parler de leurs histoires de famille vraiment compliquées. Et les deux cinglés de Absolutely Fabulous apportent le champagne. Voilà où on en est ce matin. Bonjour Romain Nigita.
Bonjour Dorothée.
Toute la semaine, grâce à vous, on découvre quel personnage de série télé il faut à tout prix inviter pour un réveillon réussi.
Et qui dit fête de fin d'année dit cadeau. Ah. Alors la petite dernière veut des figurines Star Wars, l'ado râle parce que de toute façon personne n'a compris ce qu'il voulait, et vous, vous recevez une énième paire de chaussettes moches. Alors, pour être certain de faire un cadeau qui plaira à vos petits-neveux, rabattez-vous sur un classique, la voiture télécommandée. Mais pas n'importe quelle voiture, la voiture la plus intelligente de l'histoire des séries, Kit de la série K2000.
Il est top ce générique. En fait, ça veut dire quoi KIT, Romain ?
Alors, ce sont les initiales de Knight Industry 2000, puisque cette voiture a été conçue par le milliardaire Wilton Knight. Laissez-moi devenir le Dominique Chapat des séries télé pour quelques instants.
S'il vous plaît.
KIT est une Pontiac Transam modèle 1982. On y trouve un équipement digne d'une voiture de James Bond. Elle dispose d'un turbo qui lui permet d'accélérer jusqu'à 322 km à l'heure et de bondir ainsi par-dessus tous les obstacles. Sa carrosserie est résistante aux explosions et aux armes à feu. Elle a des jets d'huile, un lance-flammes, un gaz lacrymogène, des lasers, un siège éjectable. Et ses célèbres diodes rouges à l'avant, ça n'est pas une guirlande qui clignote, c'est un véritable scanner à rayons X et à infrarouge. C'est un modèle toute option avec vitre teintée, toit ouvrant, téléphone et même visiophone. Et enfin, KIT dispose même d'une imprimante et d'un distributeur de billets de banque. Mais la principale caractéristique de KIT, c'est d'être plus intelligente que son chauffeur, l'inénarrable David Hasselhoff. Vous allez me dire, ça n'est pas bien difficile.
Ça, c'est pas gentil. Mais vous êtes certain que KIT est un cadeau qui va plaire aux enfants d'aujourd'hui? On on dirait quand même qu'elle a été rattrapée par toutes les innovations technologiques récentes.
Et ce n'est pas faux. Aujourd'hui, on a le GPS. On peut presque parler à sa voiture en téléphonant via son autoradio. Et certains modèles peuvent même faire des créneaux tout seuls. Mais est-on vraiment prêt à voir Kit se recycler en Uber ou même pire, en Autolib? Non. Il faut défendre nos icônes et rappeler que Kit est quand même la seule voiture qui permet de jouer à un jeu vidéo de course de voiture tout en étant en volant. La preuve.
Wow!
C'était moi une.
Michael, ralentis, tu vas te planter.
Je gère, t'inquiète.
Et voilà un virage, tes chances de survie sont de 0,4%.
Tu me lâches avec tes stats.
Désolé, Michael, ça fait 42 et 3, pour moi.
Si vous êtes maintenant convaincu qu'il faut avoir Kit au pied du sapin cette année, attention aux imitations, vous pourriez tomber sur son double maléfique, car ça s'écrit avec un K pour Night Automated Roving Robot, une voiture psychopathe qui est l'ennemi juré de notre gentil automobile.
Et profitez-en, car l'année prochaine, Kit aura bien changé.
En effet, puisqu'une nouvelle version de K2000 verra le jour en 2017 via une web-série développée par Justin Lin. C'est un garçon qui en connaît un rayon en carburateur, puisqu'il a réalisé les films Fast and Furious 3, 4, 5 et 6. Mais ça ne sera que la cinquième tentative pour relancer la série après déjà deux téléfilms et deux nouvelles séries tombées dans l'oubli. Mais pour ce réveillon, si vous voulez vraiment faire un cadeau qui plaira, je vous conseille la seule, l'unique, l'original. Mais faites attention pour les prochains jours de circulation alternée, 2000 est un chiffre pair.
Merci beaucoup Romain Negita. À bientôt.
À bientôt.
Et très bonne fin d'année à vous.
Merci.
Il faut s'entraîner un peu la veille du réveillon, s'échauffer, fredonner du ABBA, réviser la chorégraphie de YMCA aussi, prendre des idées de garde-robe. Alors ce soir sur France 3, on regarde la fièvre des années disco à 20h55. Tellement de brillants et de paillettes que ça finit par brûler les yeux, franchement, mais ça fait un bien fou. Documentaire réalisé par Grégory Drahi et dont l'un des co-auteurs est mon invité, Philippe Thuillier. 2 heures d'archives, hein, seulement des images d'archives. Je dois dire que c'est assez précieux. Pas de séquence en plateau entre deux images, pas d'animateur prétexte. C'est pas évident à imposer, j'imagine.
Ah si, au contraire, je pense que la chaîne était au contraire très demandeuse qu'il n'y ait que des archives. Ça coûte un peu moins cher d'avoir des interviews finalement.
C'est cher les archives aussi.
Mais les archives c'est cher et quand il n'y a que des archives, évidemment c'est plus cher.
Les interviews effectivement des témoins qui racontent quelques années après, ça coûte moins cher. Mais une émission en studio qui rendrait hommage à ce courant musical, ce serait un peu moins intéressant.
Alors... Voilà, nous c'était un parti pris, c'est-à-dire que je trouvais que il était préférable de les montrer à l'époque qu'aujourd'hui. Voilà, sublimons.
Certains ne se sont pas arrangés.
Voilà, sublimons nos artistes. Et...
Assez peu de commentaires aussi, Philippe Thuillier. Les connaisseurs n'apprendront pas grand-chose, vous diront.
Alors, il y a des anecdotes, bien sûr, mais là aussi c'était une volonté d'offrir avant le réveillon de la Saint-Sylvestre une longue plage musicale disco. Parce que c'était ça l'idée, c'était de faire danser, faire chanter devant la télé.
Vous regrettez d'avoir pas pu insérer plus d'analyse du phénomène social que représente le disco ?
On aurait pu le faire, mais si le documentaire avait été diffusé à une autre période de l'année, je suis sûr qu'on aurait fait un peu différemment.
Alors, on les connaît tous, mais c'est un plaisir de les admirer sur la durée, en effet. ABBA, Boney M, Donna Summer, Sheila, Karen Cherry, les gens passent beaucoup. Le phénomène disco, il est né dans les années 70, bien sûr. Ça correspond, vous le rappelez dans le film, à l'atmosphère morose qui a fait suite au premier choc pétrolier. Et puis en France, la majorité a 21 ans en 74, un vent de liberté souffle sur la jeunesse. Les séquences les plus savoureuses, je dois dire, sont celles consacrées aux Village People, un nom que Guy Lux a un peu de mal à prononcer.
Vous savez qu'il n'y a pratiquement pas d'absents dans Top Club. C'est ainsi d'ailleurs que vous venez de voir, pour ouvrir cette deuxième partie, les Village People avec leur plus grand succès.
Les Village People sont littéralement prisonniers de leur image. Jacques Morali leur interdit de se montrer en public autrement que dans la tenue de leur personnage. Succès oblige. On ne peut pas risquer de décevoir des millions d'admirateurs qui sont aussi des millions de consommateurs.
Mais pourquoi lui, il est la vedette?
Parce qu'il est beau.
Parce qu'il est beau et sexy.
Vous savez pourquoi Travolta est une vedette? Pourquoi Sean Cassidy est une vedette? Pourquoi Andy Gibb est une vedette? Parce qu'ils sont beaux et qu'ils plaisent au film.
Parce que pour faire du disco, être une disco star, il faut être beau et sexy.
Ah, c'est possible.
Comment est-ce que les professionnels du showbiz américain réagissent?
Ça les a amusés au début, que ce soit des Français qui aient pensé à ça.
Ils ont peut-être un peu regretté de l'avoir passé eux-mêmes.
Les villages Popol, merci Guy Lux, fabriqués de toutes pièces hein, par un producteur français, Jacques Morali. J'ai découvert dans votre documentaire que la marine américaine, le US Navy, s'est servie de la chanson In the Navy pour une campagne de recrutement.
Oui, c'est
est-ce bien raisonnable?
C'est incroyable. Alors, c'est Morali et Belolo. Oui. C'est vraiment un tandem de producteurs.
C'est Morali
français
qu'on entendait à l'instant. Voilà,
voilà. Exactement. Et eux deux, donc deux Frenchies qui conquièrent l'Amérique et qui vont créer en fait le premier boys band de l'histoire de la musique.
On fait un casting.
On fait un casting, voilà. C'était exactement ça. Et on leur faisait chanter ces tubes-là. Bon, alors il se trouve que c'était le disco, mais on aurait pu les faire chanter autre chose.
Et cette histoire de Navy, c'est vrai?
C'est vrai. Oui, on a vérifié, effectivement, c'est vrai.
Ils sont beaux, ils plaisent aux filles, disait à l'instant Morali. Avec les Village People, on est toujours à la limite de la provocation. Le groupe est très populaire dans le monde entier auprès d'un public hétérosexuel. On est dans le non-dit, à l'époque, sur l'homosexualité.
Oui, parce que ce sont des icônes gays. Leur représentation, les personnages qu'ils incarnent, sont censés faire fantasmer aussi le milieu gay. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose de très nouveau pour l'époque, parce qu'on l'affiche sans trop l'afficher finalement.
Le disco est-il avant tout un courant gay, Philippe Tulier?
Je pense que ça a contribué à ça, mais peut-être pas uniquement pour les gays, une musique pour les gays, mais c'est vrai que les gays on se sont emparés de cette musique-là, d'abord parce qu'ils ont pu danser sur...
C'était interdit
de danser entre hommes.
Voilà, jusqu'à la fin des années 60.
Hein. Exactement, donc là on est au cœur des années 70, donc voilà.
On rattrape le temps perdu.
Exactement.
C'est de la musique qu'on débite au kilo comme du saucisson. La formule acerbe est de Guy Marchand, si je ne me trompe pas, dans votre documentaire.
Et toujours aussi acerbe.
Vous insistez là-dessus aussi, c'est une musique très formatée. C'est presque une formule mathématique, le disco.
Ah bah, comme le dit Roger Gicquel en intro du documentaire, ça fait boum, boum, boum.
Il n'a pas l'air fan non plus, Roger Gicquel.
Non plus, tout comme Daniel Gilbert, qui ne comprend pas forcément le mot disco d'ailleurs.
On peut dire que c'est de la musique formatée sans forcément rejeter le mouvement.
Oui, je pense que, en tout cas,
c'est un hommage c'est nuancé.
Oui, exactement.
Bon, vous avez un petit chouchou en termes de garde-robe, Philippe Tulier. Il y a du très lourd hein, dans ces images d'archives, quand même.
Il y a du lourd. Oui, il y a le groupe Eruption, par exemple. C'est incroyable. Il y a Lady Marmalade aussi.
Hein. Lady Marmalade, c'est ma préférée. C'est Patti LaBelle. Ça peut sembler étrange de parler de ça, parce que les artistes jouent tous comme ça aujourd'hui. À l'époque, pour venir sur scène avec de telles tenues, des capes, des habits argentés comme si on arrivait de l'espace, il fallait être forte. Et faire comme si de rien n'était. Comment décrire le costume de Patti LaBelle, Philippe Tulier?
Non, c'est indescriptible.
Je dirais que c'est un maillot de bain, une pièce dorée avec des ailerons sur les épaules.
C'est ça.
C'est à peu près ça.
C'est à peu près ça.
Le Top Club de Guy Lux et tous les programmes de variété télé se mettent au disco à l'époque. Hein, personne n'y échappe. On voit bien dans votre docu quand même que la télé a du mal à saisir ce qui se passe au début. Ouais. Ça commence dans les discothèques et pas franchement à la télévision,
le
disco.
C'est sûr. Non, parce que d'abord, les titres sont en anglais et qu'il est difficile pour les programmateurs français de diffuser des chansons en anglais à heure de grande écoute. En revanche, non, le premier, alors pour le coup, à s'emparer du mouvement, c'est Guy Lux avec une émission qu'on imagine mal aujourd'hui, mais elle était à 19h45, donc avant la grand-messe du 20h, pendant un quart d'heure, il y avait un quart d'heure de disco chaque soir sur Antenne 2 à l'époque.
Oui, du disco, ceci dit, c'est un phénomène très consensuel, c'est pas franchement à découvrir de talent sur ce coup-là, Guy Lux.
Oui, mais une fois de plus, hein, les titres étaient en anglais, et ça, c'était très important. On n'imagine pas qu'aujourd'hui, diffuser des titres uniquement en anglais pendant un quart d'heure, ça avait quand même suscité quelques polémiques.
Le tube de Donna Summer, d'ailleurs, Love to Love You Baby, dure 17 minutes. C'est un format idéal en boîte de nuit. C'est compliqué à la télé.
Et c'est le premier maxi 45 tours. De l'histoire, de la musique aux États-Unis. Oui. En fait, voilà, ils ont créé un 17 minutes de Donna Summer pour
ça. Vous parliez de l'anglais à l'instant. Toutes les stars françaises du disco vont tenter leur chance en Amérique. Il y a des séquences très savoureuses avec Karen Cheryl dans votre film. Absolument. Il paraît que Mariti et Gilbert Carpentier demandaient à ce que les morceaux soient traduits en français pour passer dans leurs émissions.
Alors voilà, en fait, c'était surtout pour que Karen Cheryl soit invitée chez les Carpentiers. Maritier avait imposé, justement, qu'elle ne chante qu'en français.
Donc, c'est étonnant.
Donc elle avait traduit Show Me Your Money 9 par La Marche des Machos.
La marche des machos, ouais, ça marche un peu moins bien. À voir toutes ces images d'archives de musique sur plateau télé, je me suis demandé s'il y en avait autant aujourd'hui. Le live à la télé ou même le playback, en tout cas les prestations musicales à la télévision n'ont presque plus de place aujourd'hui, Philippe.
Il y en a moins, mais c'est cyclique. Je pense que la variété, comme on disait à l'époque, reviendra un jour. On voit bien que quand on diffuse, quand les chaînes décident de consacrer une soirée à la fête de la musique ou à des événements, ça fonctionne. Hein.
Les enfoirés,
bien sûr. Ces émissions-là rencontrent le public. Mais il y en a moins.
Les Carpentiers, c'était les Enfoirés tous les samedis soirs.
C'est ça, puisque c'était une grande récré où ils venaient s'amuser entre eux, se déguiser, jouer la comédie et chanter en duo.
Philippe Tuilier, vous publiez un livre sur Mariti et Gilbert, le couple qui pilotait en coulisses ces émissions de variété sans animateur dans les années 70.
Ouais.
Vous êtes producteur, vous aussi, à la télévision. Est-ce que vous faites le même métier qu'eux, à votre avis?
Non, je pense que eux faisaient vraiment, alors pour le coup, quelque chose de totalement inédit dans le monde de la télévision, puisque d'abord ils n'ont pas survécu aux années 80 et d'autres ne les ont pas remplacés, parce que ce serait impossible de refaire ça aujourd'hui. Chaque semaine pendant près de 10 ans, tous les samedis soirs, ils concevaient presque une comédie musicale.
C'était du one shot à chaque fois,
avec zéro recyclage, zéro rediffusion. Donc tout inédit pendant 1h15, 1h30, où donc des artistes venaient s'amuser, chanter, et on créait autour d'eux, on créait un plateau, un décor, un espace de jeu en fait.
Des émissions inspirées par les shows à l'américaine, ce serait possible aujourd'hui, ça passerait à la télé, les Carpentiers, Philippe Tuilier?
Alors, je pense que ça pourrait le faire mais il faudrait qu'il y ait beaucoup de budget parce que ils avaient un outil sous la main qui était la SFP. En fait, ils travaillaient donc au Buttes Chaumont,
dans un studio à Paris près du parc des Buttes Chaumont.
Exactement, tout ça a disparu, mais ils avaient autour d'eux un atelier de décor, d'accessoires, de costumes, une salle de répétition de danse, et donc ils avaient tout sous la main, c'était un mini Hollywood pour eux. Et aujourd'hui, il faudrait faire appel à des prestataires divers et variés qui, je pense, ferait monter très vite la facture.
Et ça ne passerait pas aujourd'hui, sans doute, parce qu'il y a beaucoup plus de chaînes en 2016-2017, beaucoup plus de contenu à fabriquer.
Bien sûr, aussi, il n'y avait que 3 chaînes à l'époque.
Ça baisse le niveau vers le bas, à votre avis?
Ça distribue un peu le public, ça le répartit.
Sens de l'euphémisme. Voilà. Vous racontez également l'agonie des discos, des années disco dans votre documentaire. Le mouvement Disco Sucks, de quoi s'agit-il précisément?
Alors, c'est né d'une radio américaine, d'un DJ qui un jour a décidé de, pour faire le buzz, comme on aurait pu dire aujourd'hui, de demander à ce qu'on vienne casser dans un stade de football américain des disques disco. Et ça a été un auto-da-fé absolument incroyable, où donc les gens sont venus avec leurs disques.
Et là aussi, au-delà du rejet de la musique, il y a une homophobie ambiante qui est palpable.
Oui, alors c'était aussi la montée des conservateurs, que voilà, c'était l'arrivée de Reagan au pouvoir. Tout ça correspondait à une période qui allait se durcir.
Merci beaucoup Philippe Tuilier. C'est à voir ce soir, La fièvre des années disco. 120 minutes d'archives qui donnent la banane, franchement. 20h55 sur France 3, dites-moi.
Que j'ai co-signé avec Thierry Lecan, voilà. Et réalisé par Grégory
Drahi. Ouais. Et puis ce livre co-signé avec Jérôme Anthony, le présentateur télé, L'âge d'or des variétés, aux éditions du Chêne. Très belle journée à vous.
Merci Dorothée.
On termine avec les Bee Gees, c'est sympa. Bonjour Ali Rebeyi.
Bonjour Dorothée Barba.
Grand bien vous fasse. Quel est le programme aujourd'hui?
Nous verrons pourquoi le téléphone a pris le pouvoir dans nos vies en modifiant durablement nos rapports à autrui. N'hésitez pas à témoigner au 01 45 24 7000 par mail grandbienvousfasse@radiofrance.com.
Et si on regarde la série Black Mirror, on sait que bientôt on aura un téléphone greffé dans l'oreille.
Mais c'est déjà fait pour moi, vous savez, Dorothée.
Un grand merci à toute l'équipe de l'Instant M, Redouane Tella, Raphaël Grippe-Marquis, Stéphane Ronxin, Nicolas Slimani. Ce matin, la technique, Sonia de Villers sera de retour lundi. Pour ma part, je vous retrouve dimanche pour Demain la veille, ce sera 17h. À 17h. Et ensuite, je vais m'éclipser quelques mois du micro parce que mon gros ventre m'éloigne un peu trop de la table. Je vous dis à très bientôt.